Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Au bord des corps.
Les minorités au travail, nouvelle série d'Au bord des corps. Dans cette série, je souhaite aborder les problématiques spécifiques des minorités face aux oppressions, qu'elles soient patriarcales, racistes, validistes et autres. L'ensemble des discriminations sexistes, racistes, validistes, etc. s'expriment de manière systémique. D'abord sur les personnes visuellement assignées à telle ou telle caractéristique, qui elles s'y reconnaissent ou non, du fait des stéréotypes oppressifs. Ces discriminations peuvent être plus ou moins directes, se ressentant tant dans l'organisation des services, des tâches, la manière de s'adresser ou non aux personnes, de respecter les temps de parole, leurs décisions, de valoriser ou non le travail effectué, jusqu'au salaire, bénéfices sociaux et perspectives d'ascension inégalement réparties et ne prenant pas en compte les obstacles déjà posés à l'encontre de ces mêmes minorités. Néanmoins, on peut aussi se retrouver en situation de minorité sans que cela ne saute aux yeux à première vue et ne pas savoir comment réagira notre structure de travail si elle apprenait les spécificités nous concernant. Cette incertitude se transforme en charge mentale et en fort potentiel d'anxiété. L'obstacle des coming out. Alors, pour un rappel définition, coming out ou outing signifie en français l'équivalent de l'expression sortir du placard. Cela se réfère initialement au fait d'exprimer publiquement son orientation sexuelle et ou son identité de genre ne correspondant pas à la norme hétérocis normée. Nous entendons ici l'expression au sens large, comme pouvant regrouper toute information communication sur une caractéristique invisible au premier abord, nous mettant alors en situation de minorité vis-à-vis des normes sociales, du fait du genre, d'un ou plusieurs handicaps, d'orientation sexuelle, d'origine, de religion, etc. Cela nous positionnerait ainsi en situation de vulnérabilité. Un autre terme que j'aimerais définir pour la suite, c'est celui de comorbidité. À la base, cela renvoie à l'association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observées dans la population, sans qu'il y ait de causalité établie, contrairement au terme de complication. Cela se réfère à l'état qui résulte de l'association de ces deux maladies. Le terme peut s'entendre ici au sens figuré du résultat de deux mots principaux, par exemple de deux oppressions spécifiques, par exemple la comorbidité entre précarité et racisme, qui favorise la vulnérabilité psychique et le difficile accès aux soins de santé. Voici pour commencer quelques réponses aux a priori les plus courants.
Les personnes ne sont pas obligées de faire part de leurs orientations sexuelles, d'identité de genre, handicap, origine, croyance, etc.
Alors, autant il y a des éléments qui ne regardent pas notre cadre, structure de travail, si on ne souhaite pas les partager, et car pour qu'on se le dise, notre taf n'est en rien concerné, comme des origines, des orientations sexuelles, religion, pathologie, etc. Autant, de nombreux coming out se font souvent de facto, par nos documents administratifs, d'état civil, ou se trouvent fortement incités pour des personnes souhaitant anticiper et limiter les possibles violences que pourraient leur faire subir un certain nombre d'interactions sociales au travail. C'est le cas pour des personnes trans, ne souhaitant pas être mégenrées, et qui se retrouvent souvent obligées de s'outer afin que les autres personnes respectent leurs pronoms et prénoms d'usage. C'est aussi le cas pour des personnes souhaitant, nécessitant, que les spécificités de leur fonctionnement tant moteur que psychique soient prises en compte pour aménager des dispositifs d'adaptation. De plus, si personne ne devrait avoir à faire part de dimensions personnelles, tout le monde devrait également pouvoir se présenter au monde de la manière qui elle le souhaite et ou le nécessite. Expression culturelle, expression religieuse, expression de genre, dispositif palliant ou aidant dans le cas d'un handicap, préférence alimentaire, prise ou non prise de repas, etc. Sans compter que les normes blanches, laïcardes, valides et hétérocisnormées font violence par leurs caractéristiques censées être universelles et leur omniprésence. Les discussions informelles au poste de travail sont par exemple socialement reconnues comme des moments dédiés à faire davantage connaissance, à parler de soi, et peuvent donc être une source d'angoisse. Cela nous crée de nouveaux obstacles, nous pousse à développer de nouvelles stratégies d'évitement pour ne pas recevoir de regards curieux et de questions indiscrètes, voire de micro-agressions supplémentaires, comme des discours fétichisants, des demandes d'explications, voire de justifications. Bref, que cela ne nous renvoie pas à nos luttes quotidiennes contre les stigmates et les amalgames, notamment dans le cas de l'islamophobie et de nombreuses autres formes de racisme.
Donc ça, c'est dire à quel point ces réflexions sont blessantes et à quel point elles ont un pouvoir et à quel point elles ont un impact sur les personnes, au point d'effacer sa personnalité pour ne pas les subir. Elles sont à la fois victimes et à la fois elles doivent éduquer aux personnes que non, ça ne se dit pas ou pas comme ça. Ou, voilà.
Le spectre des violences au travail sur les minorités peut aller jusqu'au risque de tomber sur des personnes profondément haineuses, décidant par rejet de nuire à notre travail et notre maintien en poste. Chantage, humiliation, évincement de responsabilité, licenciement abusif. À noter que plus nous sommes en situation d'isolement vis-à-vis des autres personnes minorisées sur les mêmes plans que nous, plus le ressenti de la violence peut s'en trouver décuplé. Nous risquons également d'être instrumentalisés comme le représentante de la des minorités qui nous concernent, utilisés comme porte-drapeau de la structure, comme si notre présence attestait d'un mérite de ces dernières. Style
« Regardez comme on est des gens trop bien qui ont de la diversité dans leur équipe ».
Saouté peut déclencher des focus sur nos statuts de minorité, conduisant à être enfermés dans cette caractéristique. Des actrices racisées se retrouvent ainsi reléguées à jouer des rôles extrêmement stéréotypés, comme le montre le recueil de témoignages « Noir n'est pas mon métier » d'Aïssa Mega, actrice réalisatrice. Ou bien on peut aussi se retrouver chargé du travail de pédagogie sur les questions censées les concerner. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans la série Insecure.
Ma chef a fondé une association pour aider les jeunes des quartiers. Mais elle n'a embauché personne issu des quartiers.
J'hésite entre la méthode Booker T et celle de Dubois, en vérité. Ce que James Baldwin dirait, c'est le plus bénéfique pour les gens de couleur.
Quoi, en 2016? Réellement? Je suis là depuis 5 ans et on me prend pour la blague de service qui a réponse à tout.
On va demander à Issa. Issa, c'est quoi avoir le swag?
Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais très bien ce que ça veut dire. Mais l'agression passive, c'est ma spécialité. Je me défoulais dans un journal intime avant. Maintenant, je compose des raps.
Autre préjugé.
Bon bah ok, mais c'est juste une phrase de précision.
Non. Le propre des coming out, c'est que nous avons constamment à les reformuler auprès des personnes extérieures. Nouvelle eau arrivant, te, etc. Et à devoir faire avec la modification des comportements et des regards des personnes qui nous entourent. Ces postures ne sont peut-être pas identifiées comme dérangeantes, voire violentes de l'extérieur. Mais nous, nous les ressentons bien comme telles, car nous les expérimentons dans l'ensemble des sphères quotidiennes.
Quand je, par exemple, quand je sais que je vais être amenée à interagir avec de nouvelles personnes que je ne connais pas, je vais instaurer des mécanismes de défense qui fait que je vais être stressée par des interactions sociales. Du coup, je vais me renfermer. Du coup, ce qu'on me dit souvent en fait sur le travail, c'est que je suis froide, que je suis méfiante, que je suis pas très sympathique.
Selon l'intersection des oppressions vécues, selon si nos collègues fréquentent ou non d'autres sphères de nos vies, on peut avoir un intérêt essentiel, voire parfois vital, à garder la discrétion sur certaines de nos spécificités.
Oui, mais bon, en même temps, c'est trop tôt ou c'est trop d'informations pour certaines personnes.
Cet argument est irrecevable. Nous devons sortir de la fiction d'identité fixe et largement similaire, les fameuses normes universelles, et prendre en compte les spécificités de chacun. L'argument que nous ouvrions les terres au nom de tel ou tel public, groupe social, qui ne serait pas prêt, entre guillemets, que ce soit des enfants, des parents d'élèves, un groupe appartenant à telle ou telle minorité, etc., n'est pas recevable. C'est de la discrimination. C'est également infantilisant, déresponsabilisant, généralisant, voire discriminant aussi pour le groupe social ou les individus en question. De manière générale, c'est justement cette loi du silence et du tabou qui empêche d'avancer et dissimule la multiplicité des vécus et des identités. Je me souviens lorsqu'étant AESH, en collège, c'est-à-dire assistante d'enfants en situation de handicap, comme l'indique l'acronyme de l'éducation nationale, j'avais échangé avec une prof d'éducation civique, car j'avais remarqué qu'elle excluait tout sujet se référant à la transidentité dans ses cours. Selon elle,
les élèves et leurs parents n'étaient pas prêts à aborder un pareil sujet.
Cela alors même que beaucoup de personnes trans ressentent le besoin de transitionner dès l'enfance. Alors qu'on se bat justement pour dépathologiser la transidentité, visibiliser et faire respecter ses vécus, cette prof maintenait l'omerta. Comment des élèves pourraient se sentir de faire leur coming out si le sujet n'est jamais abordé, que leur ressenti ne trouve aucun point d'ancrage dans les réalités sociales, en dehors des discours extérieurs largement répandus qui les stigmatisent d'anormal à normaux? Par le silence, on maintient la norme dominante et les a priori discriminants comme légitimes. L'argument d'une hiérarchie qui
ne serait pas au fait ou trop débordée
est également inacceptable. Le respect des personnes dans leur entièreté et le droit à ne pas subir de stress et discrimination liés à nos spécificités devraient être la base de toute relation sociale, au travail comme ailleurs.
Et dans les faits ?
Beaucoup de personnes décident de taire leur appartenance à telle ou telle minorité, pour se préserver. Or cela peut également impliquer un évincement des aides sociales, censées nous soutenir, par crainte d'être d'une part stigmatisée, et d'autre part que cette stigmatisation complique l'accès ou la pérennisation d'un emploi ou le fait de contracter un prêt. Beaucoup de personnes trans n'osent pas demander l'affection de longue durée, ALD, assurant pourtant une partie des frais de transition, en dehors du fait que cette appellation est extrêmement pathologisante. Où beaucoup de personnes porteuses de handicap ne demandent pas l'allocation adulte handicapé, AAH, ou la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, RQTH, là aussi des dispositifs assez pathologisants, mais qui peuvent être intéressants pour avoir une aide financière sur laquelle on crache vraiment pas. Et je passe sur les délais pouvant être extrêmement longs avant d'obtenir une réponse lorsqu'on demande ce type d'aide. Tout ça renforce donc nos risques d'instabilité et de précarité dans le milieu du travail, et la crainte de vivre ces situations épuisantes voire violentes participe au développement de sentiments d'insécurité et de mal-être. Rappelons qu'appartenir à des minorités est également déjà un bon facteur de sentiment d'illégitimité, freinant aussi nos propres perspectives et renforçant les injonctions à fournir toujours plus de travail au risque des burn-out. Par socialisation, habitude du fait de nos entourages ou simple empathie pour les personnes se trouvant elles aussi en situation de vulnérabilité, nous sommes aussi davantage poussés à prendre soin des autres et à faire des problématiques générales de notre travail des enjeux individuels. Bref, grosse charge mentale.
Au début, en fait, tu ne dis rien. Tu évites même parfois, dans certains contextes, certains sujets qui pourraient justement attiser ce genre de réflexion.
Nous savons également être davantage dans le viseur des institutions en cas de problème, stigmatisation raciste, etc. Tout comme à l'intersection d'instabilité financière, de comorbidité de santé, autant d'obstacles supplémentaires venant freiner nos émancipations individuelles et l'organisation pour la défense de nos droits, permettant moins de faire grève, de participer à des blocages, des manifs, parce qu'on ne peut pas trop se permettre de rater un salaire ou de passer sous le viseur de la direction. D'où l'intérêt des syndicats, notamment de la CNT, en cas de problème avec les hiérarchies, ou encore l'intérêt des cagnottes solidaires, bref, de l'entraide.
Et en tant que collègue, je fais quoi ?
Déjà, j'évite de présupposer des caractéristiques des personnes qui m'entourent. Bon adage dans la vie en général, d'ailleurs. J'évite les questions intrusives.
Tu viens d'où ?
Ta famille fait quoi ?
T'es célib ?
Tu as des enfants ?
Plus, j'évite de genrer la personne avant qu'elle ne se soit genrée elle-même, et je respecte le prénom et les pronoms qu'elle utilise sans poser de questions. Je fais attention à ne pas généraliser mon vécu, je ne pousse personne à faire son coming out. Si quelqu'un, une, me fait son coming out, j'écoute, et si j'ai des questions, je vais chercher des sources sur internet qui répondent et m'aiguillent. Si quelqu'un, une, fait son coming out, je demande à cette personne si elle préfère que je garde cela pour moi ou si elle veut de l'aide, du relais, pour diffuser l'information aux autres de la structure. Si d'autres personnes se trouvent être au courant, je m'efforce de faire attention à ce qui est dit et à ce que la personne concernée ne se retrouve pas seule à devoir expliquer sa situation. Je ne laisse pas de propos moqueurs ou discriminants être dit en ma présence, que la personne concernée soit là ou non. Si elle est présente lors de cette situation, je ne pars pas en croisade non plus en me mettant à parler à sa place. Si elle se défend déjà, je soutiens son indignation, si elle s'exprime, et sinon je me contente de trancher la conversation. Ces propos ne sont pas acceptables, stop. Si la personne concernée mentionne le fait de souhaiter en parler à la hiérarchie, je propose de l'accompagner pour être témoin, soutien ou tampon.
En tant qu'employeuse, je fais quoi ?
Je peux réfléchir à pourquoi j'emploie tel ou tel individu et comment. Se questionner et questionner les personnes employées sur leur ressenti au travail, si elles se sentent suffisamment valorisées dans leur travail, ce qu'il leur faudrait pour gagner en valorisation et pour s'épanouir davantage dans ce travail ou dans un autre. Respecter les préférences individuelles exprimées par toute personne le a concernant, qu'il s'agisse de prénoms, pronoms, vêtements, etc. Pour rappel, le travail capitaliste est intrinsèquement validiste par ses normes productivistes qui poussent les êtres humains à aller au-delà de leurs ressources propres et à ne poursuivre la maximisation des gains des personnes qui en tiennent les commandes, patrons, actionnaires, etc. parce qu'il implique une nécessaire hiérarchie des vies pour se perpétuer, il entretient les divisions racistes et sexistes du travail. Le travail capitaliste nous a transformés en rouages dont l'existence devrait appartenir au système de poursuite d'une croissance économique infinie. Pour assurer notre productivité, l'État entend contrôler chaque fois davantage notre santé, notre repos, notre vie pour nous-mêmes, pour nous mettre ou remettre au travail le plus longtemps possible. Toutes les institutions, écoles, familles, hôpitaux, prisons, ont été constituées pour faciliter la gestion de nos corps, de nos vies, et la maximisation du profit de quelques-uns une sur l'exploitation graduée de tous les autres. Personne ne devrait travailler pour avoir le droit de survivre, c'est-à-dire de se nourrir, de se loger, de se soigner. Si nous en avons besoin aujourd'hui, c'est parce que le système capitaliste nous a confisqué notre autonomie dans nos moyens de survie et de vie. Si la communauté fonctionnait en dehors du système capitaliste, tout le monde devrait pouvoir effectuer les travaux de son choix et nécessaires, selon l'équilibre entre nos possibilités et nos limites, nos besoins et nos préférences à tous. Enfin, rappelons que les jobs les plus exténuants et les moins protégés socialement, les moins rémunérés, les moins valorisés, sont de ce fait pris en charge par les personnes les plus minorisées. Jobs en chantier ou emplois informels de réparation, majoritairement assumés par des personnes migrantes, notamment sans-papiers. Travail de livraison Uber, travail de soins par les minorités de genre, travail du sexe essentiellement réalisé par les minorités de genre et dans le cas des milieux les plus exposés de l'espace public, typiquement en bois de Boulogne, des femmes transracisées. Le travail domestique, les travaux d'entretien, de care, tiennent la société, mais sont invisibilisés, dévalorisés et non ou sous-payés. Les jeunes générations sont également particulièrement utilisées via des dispositifs sous-payés, stages, alternances, services civiques pour des emplois où elles assument généralement un travail équivalent à celui des salariés. Les personnes en service civique ne peuvent ni cotiser pour la retraite, ni pour le chômage. Il y a un très bon épisode de Cache Investigation là-dessus. Les travailleuses handicapées et détenues ne bénéficient pas de la plupart des protections du droit du travail. En plus des nombreux jobs qui refusent de les employer et en plus d'être largement sous-payées et ainsi maintenues en situation de précarité et souvent de dépendance financière, beaucoup ne peuvent pas cotiser pour leur retraite ni toucher le chômage, alors même que leur travail est essentiel à la bonne roue de l'économie productiviste et alors que la plupart des structures privées, publiques ou parapubliques qui les exploitent se drapent dans la prétention de leur faire une faveur sociale. Beaucoup d'associations gestionnaires, comme l'Association des paralysés de France, APF, bloquent l'accès aux droits des dites travailleuses handicapées, préférant les inscrire dans le productivisme avec des emplois moins protégés plutôt que de leur permettre de ne pas travailler du tout si telle est la préférence des concernés. Encore aujourd'hui, les personnes accompagnées dans le cadre d'établissements et services d'aide par le travail, ESAT, ne peuvent pas se syndiquer. Dans la même veine, gare également aux fausses entreprises sociales et solidaires et organisations humanitaires qui servent sur le travail des minorités, qui elles gardent enfermées dans des tâches spécifiques pour en tirer la majorité des bénéfices économiques et symboliques. Et croyez-moi, en ayant fait des études en sciences politiques et de solidarité internationale, j'en ai vu des cours où on nous apprenait à comment faire des bons ateliers pour émanciper les femmes de tous les pays, blablabla, en leur faisant faire de l'artisanat ou par des microcrédits, et j'ai aussi étudié tous les phénomènes délétères que ça avait, en plus d'être hyper stigmatisant et sexiste. Et c'est ce que continuent de mettre en place la plupart des ONG internationales. L'idée qu'aucun autre système d'organisation sociale n'est possible est une fiction des pouvoirs en place, qui nie de nombreuses autres réalités d'existence à laquelle nous pouvons, par l'entraide, résister. Voilà, ça c'était un peu pour la mise en jambe. Si tout ce que je dis fait écho à des expériences que vous pouvez avoir, ou à des réflexions, ou à des imaginaires que vous créez, de monde où le rapport au travail serait différent, bah n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos écrits, témoignages ou ce que vous voulez, pour en faire des podcasts ensemble. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne semaine radiophonique. À bientôt sur Au bord des corps.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Au bord des corps.